Ah, avant de vous voir, je vois ma tête là. Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un que je connais bien. Ça fait 71 ans qu'on est ensemble. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être là. Je reviens quelque part comme à la maison. J'ai l'impression d'être à la maison là. Comme dirait l'autre, soit comme chez toi, mais tout en pensant que tu es chez moi. Alors, un grand respect pour tout ce qui se fait ici et je me réjouis. Je me rends compte qu'il y a une atmosphère qui est en train de changer dans le positif et je ne peux que me réjouir. Alors, je pense, qui est-ce qui ne me connaît pas? Tout le monde me connaît? Ah, c'est vrai qu'on ne s'est jamais vu. Enfin, voilà. Je m'appelle Gilles Le Sieur. Alors, je ne suis pas une huile. Mais j'ai un nom qui est sur toutes les bouteilles d'huile et les pots de mayonnaise. Comme ça, vous ne pouvez pas oublier mon nom, Le Sieur. Hein. Et je connais Jésus depuis 52 ans. J'ai connu Jésus à l'âge de 19 ans. Et ça a été un bouleversement dans ma vie, puisque j'étais dans la mentalité de 68, ni Dieu ni maître interdit d'interdire. Vous voyez que ça se guérit, hein. Et quand on a la révélation de celui qui nous a tout donné, ben on ne peut que l'aimer. Et si on a un problème pour l'aimer, c'est qu'on ne le connaît pas, tout simplement. Et c'est vrai que ce matin, je vous ai apporté un message qui n'est pas populaire, mais combien il est précieux. Alors, je suis pasteur à Yvetot. Yvetot, ça se trouve entre Rouen et Le Havre, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis né quand même à Paris, je suis un Parisien, j'ai vécu mes 22 premières années jusqu'à l'école biblique, je suis parti à 22 ans, j'avais à peine 22 ans que je suis parti à l'école biblique, mais je suis Parisien, je suis né dans le 9e arrondissement, je connais très bien Paris, le Paris de avant 68, je le connais bien, je vois qu'une dégradation tellement terrible dans la ville de Paris, la différence. Pour ceux qui ont connu avant 68, ben André, tu fais partie aussi. Hein. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Et je suis aussi missionnaire en Afrique, parce que ça fait 25 ans que je travaille à établir des missions au Sénégal. Nous avons deux missions qui ont été implantées par Elim Ifto. Donc, je fais la navette entre l'Afrique et la Normandie, et la Normandie et l'Afrique. J'ai un pied là-bas et un pied là, en permanence. Et comme je disais, votre gardien, il est là, le gardien de... il est où, le gardien? Non, il est en bas. Parce que j'ai appris qu'il était de la Côte d'Ivoire. Mais l'Afrique, moi, je suis africain aussi. Hein. Simplement, je suis sorti du four trop tôt. C'est tout. Tout simplement. Mais mon cœur est africain, j'aime ce continent. Ils ont tellement souffert. Ils ont tellement souffert. Et combien je me réjouis de le voir dans leur engagement. Et je pense que Dieu va aussi beaucoup utiliser les Africains pour peut-être secouer les Occidentaux. Peut-être, j'espère. En tous les cas, il y aura un juste retour des choses. Mais en tous les cas, qu'il en soit ainsi, que Jésus soit servi, quelle que soit la couleur de nos peaux. On est ensemble et combien un bouquet de fleurs avec des fleurs différentes. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Quelles que soient nos différences, hein, regardez la beauté de nos différences plutôt que regarder la rivalité. Alors, je suis tellement heureux de servir Dieu. Je suis dans le ministère depuis 41 ans maintenant, à plein temps. Et c'est un privilège, c'est une joie. C'est un honneur de servir un tel Seigneur. J'espère que vous êtes amoureux de Jésus, quoi. Vous avez déjà été amoureux, quand même, non? Vous savez ce que c'est que ces sentiments amoureux, là? Hein? Florence, tu sais ce que c'est, hein? On ne pense plus qu'à lui ou à elle, ça dépend. Notre pensée, elle est entièrement dirigée. D'ailleurs, on oublie tout parce que tellement notre pensée est tournée vers celui qu'on aime. On n'a pas vécu ça. Messieurs, mesdames, ah, C'est pas tabou, non? C'est beau d'avoir des sentiments amoureux. J'espère qu'on les a pour Jésus, surtout. J'espère qu'on les a pour Jésus, parce que nous sommes dans des temps tellement compliqués au niveau de l'Église. Quand on est conscient des temps dans lesquels nous vivons, il y a des frayeurs parfois par rapport à certains textes de la parole. Il y a des frayeurs. Il y a des questions que nous pouvons nous poser. Il y a surtout parfois une parole que nous ne voudrions pas entendre de la bouche de Jésus en disant « Mais je ne te connais pas ». Vous savez, on peut remplir des salles d'église. On peut remplir des grandes salles, on peut avoir des grandes églises, on peut avoir de toutes sortes de choses. Mais est-ce que la présence de Dieu remplit nos vies et nos cœurs? Ça qui est important. Est-ce que la présence du Seigneur, elle est à la mesure du nombre de personnes? Jésus, il a formé que 12, et en plus il y en avait un qui connaissait l'histoire de Judas. Même sur les 12, il y en a un qui n'a pas passé le cap. Trouverai-je encore la foi quand je vais revenir, dit Jésus. À la fois, je voudrais vous interpeller, parce que le message, il est grave. C'est un message qui est grave, un message qui est important. Un message auquel on doit s'arrêter, on doit repasser. Et tout ce que je vais vous dire à vous, je me le dis à moi. Comprenez? Il n'y a absolument pas dans ma pensée un doigt qui se dresse contre quelqu'un. Je veux dire, ce que je vous adresse ce matin, je me l'adresse aussi à moi. Tellement c'est important. Je ne voudrais jamais entendre cette parole du Seigneur, mais je ne te connais pas. Oui, mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. Je ne te connais pas. Ça, c'est des paroles qui nous plombent, non? Et qui doivent nous remettre en question. Et quand Jésus dit, vous savez, au moment du retour, de mon retour, il en sera de même que le jour de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Noé? Toute une génération. Apparemment, ils ne faisaient rien de mal. Ils se marièrent leurs enfants. Ils étaient occupés à leur activité quotidienne. Mais pendant 120 ans, il y a un homme qui était complètement fou de construire une arche en plein désert. Il faut être timbré pour faire ça. Il faut être fou pour faire ça. Il avait beau annoncer, prédicateur de la grâce. Prédicateur, hein? Il était un prédicateur de la voix de Dieu, de la justice. Qui a entendu? Juste sa famille. 8. 8 personnes sur une génération. C'est même pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, mes bien-aimés. L'Éternel ferma. Essayez d'imaginer. Les eaux sont montées, les gens se sont roués vers cette arche qui était une folie pendant 120 ans, mais tellement utile au moment opportun. Essayez d'imaginer, je pense que les gens, ils ont dû faire comme au naufrage, au Sénégal, il y a eu un naufrage d'un ferry, le Djola, pour ceux qui sont au courant. Il y a un ferry qui a coulé et les gens ont tapé. Ils ont essayé, ils étaient pris en dessous, le bateau s'était retourné. Ils ont tapé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de souffle. Vous savez, c'est pas quand c'est trop tard qu'il faut agir. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir un aujourd'hui. C'est un privilège. Nous avons le privilège d'avoir encore un aujourd'hui. Et dans ce aujourd'hui, il y a encore une dimension de la grâce de Dieu. Il y a encore une dimension de repentance. Il y a encore une dimension de pouvoir grandir avec le cœur de Christ. D'apprendre à se laisser connaître par lui. Non seulement de le connaître, mais de se laisser connaître. Et le Seigneur, il nous a donné tellement d'enseignements, de précisions. On ne pourra jamais dire au Seigneur, mais je ne savais pas. Tu ne m'avais pas dit, mais tu m'as trompé. On ne pourra jamais dire ça à Dieu. Jamais. Et donc, comme nous a dit notre frère, le titre de mon message, c'est « Les caractéristiques du disciple ». Avant de lire Matthieu 28, j'aimerais vraiment qu'on s'adresse au Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit. Vous avez aussi besoin du Saint-Esprit pour recevoir des semences de vie. Depuis que je sais que je veux prêcher, je prie pour vous et je prie pour moi, pour que Dieu utilise des semences de vie qui puissent toucher en profondeur vos cœurs et qu'on voit le peuple de Dieu digne de ce nom, peuple de Dieu, un peuple qui lui appartient en propre. Je prie pour que les semences de vie soient reçues et puissent s'enraciner. Quand une semence prend des racines, une semence est capable même de bouleverser une maison, soulever des trottoirs, soulever des routes. Une semence. Nous pouvons bouleverser des tas de choses autour de nous avec la semence. En grec, le mot semence, c'est sperma. Qu'il y ait le sperma de Dieu, la semence de Dieu ce matin, dans vos cœurs. Seigneur, nous sommes conscients, je suis conscient de tout mon cœur que sans toi nous ne pouvons rien. Tu es ma force, tu es ma forteresse, tu es ma haute retraite. Je suis un pécheur sauvé que par ta grâce, comme chacun d'entre nous. Nous voulons nous présenter ce matin devant toi, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu t'es manifesté en Yeshua d'une façon tellement concrète, tellement entière. Tu t'es manifesté dans tout ce que tu étais au niveau de ton amour pour nous. Tu ne pouvais rien nous donner de plus de ce que tu nous as donné. Tu nous as donné le summum d'un cœur qui aime gratuitement. Qu'il y ait un retour, Seigneur, à cet amour. Qu'il y ait un vrai retour à cet amour. Seigneur, utilise ma bouche ce matin pour qu'il en soit ainsi. Au nom de Yeshua. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu dans Matthieu 28. Une des commissions, et je dirais, le Seigneur ne nous a pas donné beaucoup d'ordres d'une façon pratique. On a l'appel à la repentance, il nous a demandé aussi l'engagement dans les eaux du baptême, il a institué aussi la Sainte Cène que nous avons prise tout à l'heure. Mais dans les choses pratiques, il ne nous a pas donné des choses en détail. Il nous a donné des grandes lignes qui sont essentielles. Et là, nous avons une commission que le Seigneur nous a donnée, nous a laissée, le jour de l'ascension, le jour où il allait quitter visuellement ses bien-aimés. Et donc, Pâques est passée, Jésus a été crucifié, il a été ressuscité. Et 40 jours après, il a donné cette mission à ses enfants, à ses disciples, dont nous faisons partie, j'espère. Voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 28, versets 16 à 20. « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. » Ça, c'est... Il faut qu'on apprenne à nous prosterner devant le Maître. Nous avons besoin de retrouver cette attitude de prosternation. Quand on se prosterne, on est au ras du sol. Donc, on est dans une totale humilité, c'est lui le maître. Ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On va lire aussi dans Luc, chapitre 14. Luc chapitre 14. Verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé des fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça nous rappelle les fins de lettres, des lettres de l'Apocalypse, où elles terminent toutes comme ça, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un état d'église qui, je pense que certains de nos pères doivent se remuer dans leur tombe sérieusement, car nous sommes dans, en majorité, beaucoup, beaucoup d'églises. Heureusement qu'il y a toujours des exceptions, des églises d'adhérents. Nous sommes dans des églises où on adhère. On adhère à la, on pourrait dire, philosophie chrétienne, on adhère à l'éthique chrétienne, on adhère à beaucoup de choses. C'est agréable d'être dans une église, on est aimé, on est pardonné. Il y a des tas de bonnes choses, il y a des intérêts aussi. Des fois, on arrive avec rien et bon, on vient à notre secours. Il y a beaucoup d'intérêts d'être dans une église. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais ce n'est pas ma croyance qui me sauve. C'est ma foi qui me sauve. Vous savez que le plus grand des croyants, c'est Satan. Satan croit en tout ce que vous croyez. Et vous savez que les démons, même avant la crucifixion, ils connaissaient bien Jésus. Relisez le passage avec le possédé de Gadara, où les démons qui étaient dans ce possédé se sont prosternés devant Jésus, eux aussi. Et ils ont eu peur, ils ont dit, tu es venu nous persécuter avant l'heure. Les démons savaient très bien, ils connaissaient l'identité de Jésus. Ils savaient qui était Jésus, les démons savaient ça. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qui est vraiment le maître, qui est vraiment le Seigneur. Vous voyez, donc, une croyance ne fait pas forcément de moi quelqu'un qui est chrétien. Qu'est-ce qui fait la différence entre la croyance d'un démon ou la croyance de Satan et ce que nous avons reçu par la foi ? La différence, c'est que mon cœur a choisi de suivre le maître. Parce que les démons et Satan, eux, ils suivent que leurs propres intérêts à eux. Les intérêts de Satan, les intérêts de l'adversaire de Dieu. Mais à chaque fois que moi, je sers mes propres intérêts personnels, je suis dans la même tonalité. Donc, il est important que je puisse réaliser que le Seigneur, il nous embarque dans un chemin qui va nous déboussoler sérieusement. Savez-vous que dans les évangiles et dans les actes, il est mentionné 264 fois le mot « disciple ». Et moi, on m'a toujours appris, mes aînés m'ont toujours appris que quand Dieu répète et répète et répète et répète quelque chose dans les Écritures qui revient en permanence, ça veut dire que c'est important, c'est capital, c'est central. Et 264 fois dans les quatre évangiles plus les actes, il est mentionné le mot disciple. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de disciples. On parle des croyants, des croyants de telle église, on parle des baptistes, des pentecôtistes, hein, on parle des gens d'Élime, enfin, on parle de tout ça. Mais c'est rare qu'on parle vraiment de... Mais c'est un disciple. Ça se voit à ceux qui croient, ça se voit à ceux qui font, ça se voit à ce qu'ils pensent, ça se voit à ses choix, ça se voit à son éthique, ça se voit dans toute sa vie. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a appelé les chrétiens, parce que ça se voyait, c'était des petits Christ. On voyait Christ dans les gens, dans les premiers croyants. On voyait Christ en eux. Et c'était presque une insulte. Oh, c'est chrétien. Oui, c'est chrétien. Aujourd'hui, on met l'Église au milieu du monde. Parfois, on se dit, mais où est la différence? Où est la différence? Il y a des pensées, des valeurs du monde qui se sont incrustées au sein même de l'Église. Je pense, ne serait-ce que depuis quelques dizaines d'années, le concubinage. Et je m'arrête que là, parce que sinon, on pourrait faire la liste, ça serait grande. Vous voyez, il y a des mentalités qui s'incrustent petit à petit au niveau de l'Église, ne serait-ce qu'aussi qu'on transforme parfois des cultes en salle de bal ou salle de danse, ou je veux dire, on a oublié quelque chose au niveau de l'adoration. On y va pour se satisfaire plutôt que de venir rendre un culte à Dieu. On va chercher l'autosatisfaction, quelque chose qui va me soulager, me faire du bien. On se fait du bien. On se fait du bien, oui. Mais est-ce que Jésus a été servi? Est-ce que Jésus a été aimé? Moi, je me pose la question quand j'ai reçu une réunion, quand j'apporte un enseignement, quand je suis en déplacement, quand je suis en mission. Seigneur, est-ce que tu as été servi? Ou est-ce que je me suis servi de toi? Oui, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on se sert du Seigneur pour s'auto-satisfaire ou pour combler une douleur, une souffrance? Est-ce qu'on se sert du Seigneur? Ou est-ce que tel qu'on est, on est là pour le servir? Comprenez la nuance, la différence. Alors, il y a un pasteur allemand qui est connu, tu dois le connaître, Dietrich Bonhoeffer, qui était au temps des nazis, qui a résisté à Hitler pendant la guerre. Ça lui a coûté d'être pendu. Les nazis l'ont pendu. C'est un théologien allemand, un pasteur qui a dit une petite phrase dans un de ses livres, quelque chose d'important au niveau du discipulat et au niveau, justement, quand Dieu nous appelle à le suivre. Il dit, quand le Christ appelle un homme ou une femme, d'accord, c'est un homme ou une femme, quand le Christ appelle un homme ou une femme, il lui dit, écoutez ce qu'il dit, viens et meurs. C'est un évangile qu'on n'entend plus beaucoup. Je vous ai dit, je ne suis pas populaire ce matin. J'en ai rien à faire. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour le servir. Et je vous dis, ce que je vous dis à vous, je me le dis aussi à moi. Je suis autant concerné que vous, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas me dire, ouais, pasteur, non. Non, je suis autant concerné que vous. J'ai des réflexions, j'ai des remises en question, je fais des choix, j'ai la crainte de Dieu. Tout simplement. Et c'est ce qui doit nous animer ensemble. Et un message comme ça, qui n'est pas populaire, ça doit nous faire grandir dans cette crainte, sainte crainte de Dieu, et au contraire, nous faire grandir dans la paix, grandir dans la joie, grandir dans le repos, grandir dans la liberté. Alors, quand Bonhoeffer dit « viens et meurs », il dit « tiens, pourquoi il dit ça ?» Mais quand on lit bien les évangiles, quand on lit bien les paroles de Jésus, il a fait une synthèse en deux mots, « viens et meurs », tout simplement. Et souvent, aujourd'hui, on dit « ah, venez au Seigneur, il va régler tes problèmes, il va régler tes problèmes d'argent, il va régler tes problèmes de couple, il va régler tes problèmes de... » On met tout ça en avant. Même si c'est vrai que le Seigneur va toucher, hein, va nous aider à remettre de l'ordre. Mais vous savez, avant qu'il y ait la vie, il faut toujours qu'il y ait la mort. Avant qu'une graine ne puisse donner la vie, il faut qu'elle passe par la mort. Ce n'est pas Jésus qui a dit, hein, que si le grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Est-ce que Jésus, avant la résurrection, est-ce qu'il n'a pas dû passer par la mort? Avant que Abraham puisse voir le secours de l'Éternel, est-ce qu'il n'a pas dû mettre son fils Isaac sur l'autel comme Dieu lui a demandé? C'était une sacrée démarche. Vous savez, moi je ne crois pas à une marche facile et gratuite. Je crois à un salut gratuit. Ça, il n'y a pas de problème. Je crois à un salut qui est absolument gratuit. Mais je crois à une marche qui coûte notre vie. Alors, il y a des choses que nous devons savoir, que beaucoup de chrétiens ne savent pas. J'aimerais vous partager, en fin de compte, qu'est-ce qui est important de savoir pour nous aider dans cette démarche et dans cette approche du discipolat. C'est que, déjà, premièrement, il faut savoir que Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin de notre aide. Il est Dieu. Est-ce qu'on est venu lui donner un coup de main pour lui donner des conseils quand il a créé l'univers? Ah, ben, t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû faire comme ça. Ah, ben non, comme ça. Hein, c'est bien ce que... je vous renvoie au dialogue de Dieu avec Job, à la fin du livre de Job. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Mais il a choisi de passer par là. Il y a eu un choix de décider, en fin de compte, que ses enfants allaient collaborer avec lui pour son œuvre. Pour une œuvre qui est parfaite, il choisit des gens absolument imparfaits comme nous. Là, dans toute entreprise, c'est un truc qu'on ne ferait pas. Toi, tu étais dans l'entreprise, tu n'aurais pas choisi les pires des pires pour un travail important. Tu n'aurais pas choisi ça. Dans aucune entreprise, on ferait ça. Ben, lui, il est Dieu. Il a le droit de se permettre de ce qu'il veut. Mais ça, c'est important de le savoir, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre aide. Et si il a choisi comme ça que son peuple est un peuple de disciples, c'est qu'il y a un but. Et il y a un but forcément constructif. Parce qu'il sait très bien que ce choix va m'amener dans des difficultés au niveau de ma chair. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu a demandé à Moïse, quand ils étaient là en Égypte, ils auraient pu aller en Israël en deux, même pas deux semaines. Et le Seigneur les a fait descendre carrément en bas. Tiens, le GPS, c'est pas la bonne indication. Vous voyez, la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et ça, une fois pour toutes, il faut qu'on accepte. Et je vous renvoie dans Ésaïe, chapitre 55. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez vérifier tout ce que je dis. D'accord? Je donnerai des références. Hein, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Il faut arrêter tout le temps d'essayer d'amener Dieu dans nos voies, Dieu dans nos logiques, Dieu dans notre sagesse, parce que là, on est en train de perdre du temps, mes bien-aimés. Moi, j'ai 71 ans, je vais sur 72 ans. Hein, pour ceux qui ont mon âge ou plus, hein, ça va vite, hein. De l'âge de 20 ans jusqu'à notre âge, c'est une flèche. Croyez-moi, les jeunes, hein, je veux pas être négatif, mais c'est la réalité, ça va vite. On peut pas se permettre de perdre du temps. Ne perdez pas votre temps. Votre temps, c'est votre vie. Votre temps, c'est votre vie. Et c'est dans cette période de l'espace-temps que tout va se jouer pour vous, parce que Dieu veut vous préparer pour l'éternité dans cet espace-temps. Il vous prépare pour régner avec lui. Il vous prépare pour être assis sur son trône. Je vous renvoie à Apocalypse chapitre 3, où l'Église qui aura tout surmonté, l'Église qui aura vraiment surmonté sur les difficultés des montagnes, etc., qui auront appris à marcher avec Christ ici-bas, c'est une préparation, c'est une école biblique de tous les jours pour qu'un jour le Maître nous assoie sur le trône sur lequel lui-même est assis. Apocalypse 3, parce qu'il veut régner avec cette armée qui est en train de se former. C'est sérieux, l'Église. Nous ne sommes pas dans une institution religieuse, de croyants. On n'en a que faire de la religion. Mais nous sommes dans une relation avec celui qui nous a créés, dont nous étions séparés, où il a tout fait pour que nous puissions être réconciliés, pour former de nous, avec nous, tout un corps en mouvement, un organisme en mouvement, pour justement que nous puissions être en fusion d'amour avec lui. Ça, c'est le but de Dieu. Hein? Il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de lui. Nous, on a besoin de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même ta respiration ne t'appartient pas. Qui peut dire que dans une heure, on sera encore vivant ? Personne. Moi non plus. Seul lui sait. Seul lui sait. Il faut qu'on soit humble. Ça, c'est l'humilité. On reconnaît les choses comme elles sont. Ma respiration et mon être me sont donnés encore par sa grâce. Tout ce qui vit, c'est encore le fruit de sa grâce. Donc, nous avons vraiment besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de nous. Mais il a fait en sorte de nous mettre dans des situations qui vont aller à l'encontre de nos logiques, de nos sagesses, comme je disais tout à l'heure, hein, comme le peuple d'Israël qui a été embarqué vers le sud, hein, dans le désert. C'était absolument pas logique, c'était absolument pas raisonnable. Mais le seul but de Dieu, c'est de se faire connaître à son peuple qu'il a sauvé, qu'il a retiré d'Égypte. Il y a des chemins, vous avez, je crois, 42 étapes, hein, 42 étapes dans le désert, où chaque étape est une épreuve, chaque étape est un obstacle, chaque étape est un défi, chaque étape est vraiment un défi par rapport au rationalisme humain. Et c'est pour ça qu'il veut absolument que nous soyons embarqués dans une vie de disciples. Et une vie de disciple, la caractéristique, c'est qu'il va suivre son maître. Dire que c'est facile pour la chair, je vous mentirai. Viens et meurs. C'est jamais facile de mourir. Je vous mentirai. Par contre, une chose que j'ai remarquée avec le temps, plus mon choix est catégorique, plus c'est facile. Moins mon choix est catégorique, plus c'est difficile. Des cœurs partagés, c'est compliqué. Et s'il y a quelqu'un qu'on peut traiter d'intégriste, c'est bien Jésus. Jésus est un intégriste. Il est intègre. Intègre, ça veut dire entier. Voilà ce que ça veut dire, intègre. Il est entier avec la volonté du Père. Et parce qu'il est entier, il va nous emmener sur un chemin. Il va nous dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et attention à ce que tu vas rajouter. Parce que tout ce que tu vas rajouter à ce que moi, ce que je te dis, il nous donne l'origine de ce qu'on va rajouter, ça vient du malin, et on n'en a pas toujours l'impression, et on peut très bien penser positivement des pensées de l'adversaire. Exemple biblique. Je reviens toujours à la parole. L'apôtre Pierre, il était sûr qu'il était capable de suivre Jésus jusqu'à la mort. Est-ce qu'il n'était pas sincère ? Si, il était très sincère. Il était honnête, il était sincère. Est-ce qu'il n'aimait pas Jésus ? Si, il aimait Jésus. Mais la tromperie du diable, c'est de croire que ça venait de sa force, qu'il était capable. Ça, c'est la tromperie. Ça, c'est une pensée vraiment diabolique. Il fallait que son illusion sur lui-même, il soit confronté par le fait d'être mis devant une évidence que ce qu'il disait, ça ne pouvait pas tenir la route et qu'il ne pouvait certainement pas servir le Seigneur de cette manière-là. D'ailleurs, tous les apôtres ont été mis en échec, tous. Il n'y en a pas un qui a réussi. Il n'y en a pas un qui a soutenu Jésus à Gethsémani. Ils ont tous échoué, tous. Lamentablement, on pourrait dire. Mais nos échecs sont des victoires, mes bien-aimés. Il faut que nous comprenions que nos échecs sont des victoires. Parce qu'on va se rendre compte que, Seigneur, je suis même incapable de t'aimer. J'ai tellement besoin de toi. Et voilà le besoin que Dieu veut nous faire réaliser face justement à la difficulté du quotidien. Comme les Israël, quand ils avaient soif aux eaux de Mara, le manquer d'eau à tout un peuple, hein, tout un peuple qui est là et qui manque d'eau, avec des vieillards, des enfants, il y a de quoi réagir, non ? Et on se réjouit tout d'un coup, on voit de l'eau, on essaye de la boire, elle est amère. Déception, espérance déçue, déception. Du coup, colère. Non, vous ne connaissez pas ce mécanisme-là. Peut-être que je suis tout seul, non ? Je suis tout seul à connaître ça, non ? Ça fonctionne comme ça. Mais vous savez, heureusement qu'il y avait un homme qui était formé comme un vrai disciple. Ah, il lui a fallu 40 ans quand même. Il lui a fallu 40 ans pour apprendre qu'il n'était rien. Pour s'appuyer sur celui qui allait le rendre capable. Il s'appelle Moïse. Et Moïse, il y a une chose qu'il savait, et c'est ce qu'un vrai disciple doit savoir, c'est qu'on n'a aucune solution sans lui. Moïse, devant tous les problèmes, il n'avait pas de solution. Oh, ça aurait été 40 ans en arrière, il aurait dit, en tant que... Hein, il avait été formé avec la sagesse d'Égypte, avec l'éducation d'Égypte, la culture d'Égypte, qui était le summum de l'époque. Il aurait trouvé des solutions, comme nous, on trouve des solutions dans nos vies. Mais il savait qu'il était dépendant, là. Lui-même, il était dépendant de celui qui était en train de conduire son peuple dans une école biblique incroyable qui allait durer 40 ans. Mais lui, 40 ans avant, il avait dû apprendre qu'il ne savait pas, apprendre que la seule solution, c'est d'aller consulter l'Éternel. Toutes les solutions que Moïse a eues, c'était le fruit du fait de consulter l'Éternel. Il alla consulter l'Éternel. Ça, c'est un vrai disciple. Disciple, il sait qu'il ne sait pas. Et dans ces chemins impossibles, là, on est ébranlé. Bien sûr, humainement, on peut avoir peur. Bien sûr qu'on peut avoir peur. Mais justement, si je sais, Dieu veut nous apprendre qu'il est avec nous. Dieu fait le fait d'être un vrai disciple nous ouvre les possibilités à découvrir que dans la vie du disciple-là, Dieu est celui qui pourvoit. Nous sommes au bénéfice de la provision divine. Il faut que ça s'apprend, ça. Moi, je travaille en Afrique depuis 25 ans et je me souviens quand j'étais dans la brousse au Sénégal, chez les Serères, il y a un vieux musulman qui s'était converti à Jésus. En ayant vu la gloire de Dieu, il avait donné son cœur à Christ. Il s'appelle Djaga. Et Djaga, la première fois qu'il m'a vu, il m'a appelé, il m'a dit « Pasteur, il faut que je vous dise quelque chose. » Alors je l'ai écouté, il me dit « Je vous ai vu dans un songe. » Et dans ce songe, Dieu me dit « Je t'enverrai cet homme pour enseigner ma parole. » Essayez d'imaginer l'encouragement énorme. Ça, c'est la chose, les encouragements qui ne se voient pas. C'est dit à travers une petite phrase d'un homme qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui a donné son cœur au Seigneur et que Dieu lui a envoyé un songe. Vous savez, mes bien-aimés, de savoir que Dieu marche dans ton présent, que Dieu marche dans ton présent, au sein de tes difficultés, de tes luttes, de ton combat, c'est l'encouragement que vous ne pouvez trouver nulle part. Et c'est à ça, je voudrais vous sensibiliser à rechercher vraiment la face de Dieu pour vos vies, afin que vous soyez là où vous devez être, pour faire ce que lui vous demande de faire, d'apprendre à être dépendant de la mouvance et de la conduite du Saint-Esprit. Ça, c'est des choses que nous devons apprendre, à savoir que le Seigneur veut être présent dans mon présent. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas simplement des choses qu'on peut chanter à travers des chants, mais c'est quelque chose qui peut être vécu, comme je vous en donne le témoignage avec cet homme qui s'appelle Djaga. Et pour vous, c'est la même chose. Le Seigneur, il est en vous, on le sait dans la théorie. On le sait dans notre croyance. Mais quand on est dans la difficulté, on fait comme si le Seigneur n'était pas là. Et ça, c'est un problème. On fait comme s'il n'était pas là. savez, quand j'étais en Casamance en février 2000, c'était dans le contexte de guerre. Dans le contexte de guerre. Et Dieu m'a travaillé au niveau de ma foi, au niveau de ma façon de croire et ma façon de recevoir la parole. On peut la lire, on peut la connaître, on peut même l'avoir étudiée sans jamais l'avoir reçue. Et ça, c'est le drame. Je me suis... Dieu m'a éduqué, il m'a formé sur le terrain missionnaire, avec de vrais problèmes. Un jour, j'ai dû traverser un champ de mines en voiture. Vous imaginez ? Comment Dieu a fait pour me protéger ? Je serais incapable de vous dire, mais il m'a protégé. Quelques jours après, il y a un Africain qui a sauté avec une charrette et un âne. Comment il a fait pour me protéger ? Vous voyez, quand on est confronté à des faits, quand on est confronté à des choses réelles de la vie, du terre à terre, avec de vrais dangers, on revoit notre façon dont on croit la parole. Et nous devons une chose, en tous les cas, revoir, c'est d'apprendre à recevoir vraiment les vertus de Dieu, de croire aux vertus de Dieu, car chaque vertu de Dieu sont là pour répondre à vos vrais besoins. De savoir que déjà que Dieu est souverain. Il n'est pas souverain simplement le dimanche matin au culte. Il est souverain aussi sur un champ de mine. Ses anges nous accompagnent partout où on va. Je pourrais passer ma journée à vous raconter des tas de témoignages comme ça. Et je ne vous parle pas en théorie, je vous parle en pratique. Et c'est important d'apprendre à reconsidérer ma foi, pour dire ce que je crois là, comment je l'ai reçu, comment je le reçois dans ma parole, dans mon cœur, comment je reçois la parole. Dieu ne nous a-t-il pas dit dans Jean 11, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il faut reconsidérer déjà le mot croire, la façon dont je crois, dont je reçois. Parce que comment devenir un disciple si déjà à la base je ne reçois pas sa parole ? Que je la crois simplement, ou c'est comme mes bouquins dans une bibliothèque, oui, il y a tel thème, je prends en fonction. Non. Comment la parole, elle a une autorité dans ma vie ? Comment la parole, elle va dompter mes craintes, elle va dompter mes frayeurs, elle va dompter le tohu-bohu parfois que nous avons dans nos émotions ? Puisque nous vivons ce qu'on pense, et la pensée, elle va agir sur nos émotions, et nos émotions vont agir sur nos comportements. Donc combien il est important de repenser la parole, comment la parole elle a sa place au sommet de ma vie. Comment elle a une autorité, même sur mes frayeurs. Même les apôtres, ils ont dû passer par ces passages-là. Et le Seigneur, pour nous engager dans ce chemin du discipulat, il va bousculer des ordres que nous avons, nous, tout établis. Il va déjà exiger, quelque part, une obéissance totale. Ce n'est pas oui, peut-être, oui, à 50%, non, non. Jésus, il n'est pas mort, même à 99% neuf. Il est mort à 100%. Et n'oubliez jamais que Jésus, il a commencé à faire couler son sang sans aucune main des hommes. À Gethsémané simplement, quand il a fait plier sa volonté devant celle du Père. Son sang s'est mélangé à la terre, et nous sommes issus de la terre, et le premier rachat, c'était le rachat sur notre volonté insoumise, puisque le sang a un langage, il a un message, il parle. Et c'est important d'avoir votre foi construite sur une base fondamentale comme ça, parce que vous comme moi, c'est facile de plier notre volonté à celle de Dieu, non ? Facile, non ? Et comment triompher de ça ? Sinon, en allant à Gethsémané aussi, son sang est tombé dans la terre. Aucun homme ne l'a frappé. Partout, après, quand son sang coulait, oui, c'est par la main de l'homme. Mais là, c'est que par sa propre volonté. Où il a dû plier, faire plier sa volonté de Jésus pleinement homme. Et c'est là que le sang a coulé dans la terre. C'est le premier signe, premier langage, premier message. Tu as du mal à me suivre. Oui, c'est normal, tu as du mal. Parce que tu es issu de la terre. C'est normal que tu aies du mal. C'est normal que tu penses autrement que moi. C'est normal que tu aies une autre logique. C'est normal que tu aies d'autres voies. C'est normal. Pour revenir, pour marcher dans le discipolat, il faut revenir au message du sang qui vous a racheté, mes bien-aimés. Vous avez été racheté. Votre volonté insoumise a été rachetée. Pas simplement par le sang de la croix, mais par le sang de Gethsémané, sans aucune frappe des hommes. Simplement par sa volonté, pour s'identifier totalement. Il s'est racheté. Nous avons besoin de développer une foi concrète sur le rachat de votre volonté insoumise, de notre volonté insoumise. Nous avons besoin de revenir là pour pouvoir triompher, pour suivre le reste. Hello ? Vous êtes là ? Je ne vous endors pas, j'espère. Non ? Je ne vous endors pas, hein ? Vous écoutez, hein? Alors le Seigneur va demander une obéissance totale, comme lui-même a obéi totalement, une disponibilité totale. Oh, on n'a jamais le temps. Aujourd'hui, je me souviens, dans les années 60, il y avait la publicité des arts ménagers. On disait aux femmes, vous allez avoir une machine à laver, c'était le début des machines à laver, vous allez avoir des aspirateurs, tout ça, vous allez avoir tout votre temps. Hein, pour faire le reste. Hein. Vous allez avoir plein de temps. C'était les publicités des années 60. Tu te souviens de ça, hein? Et alors, en fin de compte, on a eu tout, mais on a encore moins de temps. Aujourd'hui, on fait des choses en quelques minutes. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école publique, il y a 50 ans en arrière, on faisait des tracts à la main. Il nous fallait 3 jours pour faire un petit tract, avec des lettres qu'on grattait, avec les sténos, hein. Il nous fallait 3 jours pour faire un tract. Là, en quelques minutes, à l'ordinateur, on sent. Et malgré tout ce temps gagné, on n'a jamais le temps. Où est le problème? Comment se fait-il? On a plein de choses qui nous font gagner du temps, mais plus on gagne du temps, moins on a de temps. Il y a un problème. Une chose que vous devez savoir, encore, je suis toujours dans la pensée, il faut savoir, c'est que votre temps, c'est votre choix. Si tu ne choisis pas et si tu n'es pas maître de ton temps, c'est ton temps qui va être maître de toi. Hello ? Amen ? Ah ! Donc, une disponibilité totale. Et le Seigneur, il va aussi nous demander de servir les autres. On en a parlé ce matin. Hein ? Je veux servir, je suis au service des autres. Vous savez, avec les années de ministère, toutes les personnes où on est tout le temps, obligé de les suivre, c'est les personnes qui gardent un regard continuellement sur eux-mêmes. Plus je me détourne de moi-même et que je me tourne vraiment sur lui, vers lui, hein, vous avez, dans, je crois, c'est le psaume 34 qui dit, mais quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre même plus de honte. On a de multiples hontes dans nos vies, tous. Je ne demande pas de lever la main ceux qui n'en ont pas, hein. On a tous des hontes dans notre vie. Le péché nous a conduits dans un chemin de honte, à des niveaux différents. Ce n'est pas le problème. Mais ça veut dire qu'on est tous dans la même barque. Et ça veut dire qu'on a tous absolument besoin d'apprendre à regarder autrement. Le vrai christianisme, c'est une question de regard. Soit je regarde celui qui m'a toujours dominé. Hein, donc l'ennemi par le péché, c'est comme un clavier de piano où l'ennemi peut pianoter. Hein, c'est comme le péché, c'est ça, je fais que ma volonté. Et du coup, l'adversaire de nos âmes peut pianoter dessus, il fait ce qu'il veut. Après, on dit, c'est bizarre, hein, ça ne va pas, hein, s'il y avait un Dieu, ce serait mieux. Ben non, regarde autrement. Regarde vers lui, choisis d'être dépendant de lui. Donc le Seigneur va nous demander de regarder aux autres. Mais quand je regarde aux autres, je suis bien obligé de me détourner de moi-même. Je ne peux pas regarder mon frère qui est devant moi si je suis comme ça. Comment voulez-vous que je voie mon frère si je suis continuellement comme ça? Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut... Ah, je te vois. Là, je te vois bien. Comprenez ça? Tous ceux qui acceptent se détourner d'eux pour se tourner vers lui, le nombre de problèmes qui sont résolus dans leur vie. C'est impressionnant. Alors, quand Jésus a parlé de consécration à ses disciples, Hein, la réaction a été comme notre réaction bien souvent. Et on a ça dans Jean chapitre 6, verset 60. Quand Jésus a commencé à parler. Ah, faut que je reste là. Ça, c'est terrible, ça, je peux pas aller là. Je peux pas. Moi, j'aime bien être près des gens, mais là, bon, c'est pas grave. Vous voyez, tant que Jésus, il a guéri les malades, tant que Jésus a pourvu avec les pains et les poissons, il a répondu aux besoins des gens. Pas de problème. On l'applaudit, on l'élève, et on veut vraiment faire de lui un roi. Il n'y a aucun problème. Mais quand Jésus commence à parler du discipolat, c'est comme au casino, rien ne va plus. Rien ne va plus. Tous les problèmes que j'ai eus, moi, avec des chrétiens, dans ma vie de ministère, hein, c'est qu'au moment où on passe aux exigences du discipolat, quand on commence à parler du renoncement, quand on commence à parler de Christ en premier, etc., des intérêts du royaume, tous les problèmes que j'ai eus, ça a toujours commencé comme ça. Et même Jésus, toutes les foules, hein, vous verrez ça dans Jean 6, « Oh, tes paroles sont trop dures, sont dures à entendre, tes paroles sont dures. » Vous savez, quand on dit ça à Jésus, c'est qu'on ne le connaît pas. Quand on pense ça, c'est qu'on ne le connaît pas. Comment dire à celui qui est mort sur la croix, roué de coups, ensanglanté, la croix, c'était comme une boucherie. Et la croix a ce côté horrible qui nous fait voir le côté horrible de notre péché. L'horreur de la croix fait voir l'horreur du péché. Et qu'il a accepté ça pour moi. Et de dire à lui qu'il est trop dur. Oh, mais bien-aimé, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je l'ai déjà pensé aussi. Je l'ai déjà pensé à une certaine époque de ma vie. Mais bien-aimé, comment on peut penser ça? Regardez Jésus sur la croix. Toi, pour moi, pour qu'il puisse nous dire « mais je te pardonne ». Et on va lui dire qu'il nous donne des paroles dures. Elles sont dures par rapport au péché, à la carapace de péché qu'on a, oui, à ce niveau-là, oui. Tous sont partis, sauf les apôtres. Et Jésus se tourne vers eux et dit « vous aussi, vous pouvez partir ». Aucun apôtre l'a suivi de force. Jésus n'a pas pris ses apôtres de force. Si vous voulez partir, ben partez. Et des fois, on dit, tu ne veux pas suivre. Moi, j'ai déjà dit, ben, tu sais, la porte de l'église est grande ouverte. Vaut mieux que tu vives dans le péché comme tu veux, mais ne joue pas aux chrétiens en venant à l'église. Tu veux vivre dans le péché, ben, oui, c'est ton choix. Et tu veux vivre les conséquences du péché. C'est ton choix, tu as le droit. Tu as le droit de te perdre. Regardez Jésus avec le jeune homme riche. Il l'a laissé aller. À ma grande honte, moi, je n'aurais pas laissé aller. Je m'humilie. Un jeune homme riche, originaire des Lévites, qui veut en plus suivre Dieu. Je dis, bon, avec le temps, ça va s'arranger, avec un peu de cure d'âme, donc ça va s'arranger. Hein, on va, avec le temps, ça, je suis sûr que tu aurais fait comme moi, non? Une fois, j'ai prêché ça au pasteur en pleine pastorale. J'ai dit, voilà, nous, on aurait agi pour essayer de garder pour nous. Jésus, il a mis le doigt sur son vrai problème, problème de cœur. Jésus, il a que faire des gens qui le suivent que s'il n'y a pas de cœur. Dieu cherche notre cœur, pas notre tête, notre cœur. Est-ce qu'on est, on peut accepter qu'il soit à la première place? C'est là le vrai problème. Alors le Seigneur va aussi, donc, il va transmettre des valeurs du royaume qui sont complètement à l'inverse de nos valeurs. Par exemple, il va nous inviter à mourir pour vivre. Mourir pour vivre. Je vous renvoie à l'histoire de la semence. Il nous transmet ça. Il faut mourir pour vivre. Il faut donner pour recevoir. Ah bon, moi je pensais qu'il fallait d'abord recevoir pour pouvoir donner. Ah non, Dieu veut que tu commences à donner. Hein, donner pour recevoir. Accepter l'abaissement pour être élevé. Ah non, ce n'est pas possible. Impossible. Accepter d'être esclave de Christ pour être libre. Qu'est-ce qu'il y a de logique dans notre rationalisme, là? Hello? Qu'est-ce qu'il y a de rationnel avec notre logique? Aucune. Et vous voyez, il faut qu'on rentre dans la pensée du royaume. Parce que nous sommes destinés à vivre la réalité du royaume déjà ici-bas. Nous sommes appelés à éprouver cette dimension du royaume ici-bas. Votre héritage, ce n'est pas simplement l'héritage après votre mort, c'est maintenant. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Et vous avez la valeur de fils et filles du royaume. Vous êtes des filles de Dieu, des fils de Dieu, avec toute la valeur que Dieu nous a démontrée dans le prix du rachat. Le prix démontre combien nous avons de la valeur à ses yeux. C'est le prix qui détermine la valeur. Quand je vois le prix, oui, moi, plus je vieillis, plus je pleure. Je suis désolé. Mon cœur est brisé. Brisé par son amour. Je sais que j'ai de la valeur. Vous devez savoir que vous avez de la valeur. Vous devez savoir qui vous êtes. Et vous pouvez savoir qui vous êtes quand vous apprenez à savoir qui vous servez. Et nous sommes au service de Jésus, de Yeshua. Nous sommes au service de celui qui est sorti vivant, qui a triomphé de la mort, qui est vivant au siècle du siècle, qui a apparu à plus de 500 personnes à la fois, qui a donné les instructions à ses disciples, qui nous a envoyé la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions être dans la prolongation de son ministère. Mais nous sommes tellement affairés pour nous servir, nous, d'abord. Et on verra ce qu'il y a après. Moi, je me souviens combien de fois, avec les années, c'est terrible quand on a de longues années derrière nous, on a de nombreux exemples. Combien de personnes disent « Quand je serai en retraite, je veux servir le Seigneur. » Arrivé en retraite, ils sont malades et ils meurent. Mais, vous savez, j'ai vu ça dans les églises. Et au bout d'un moment, quand vous êtes jeune, vous vous posez des questions. C'est bien de voir servir le Seigneur à la retraite, mais c'est qu'on n'a rien compris. Parce que quel que soit l'endroit de ton travail, tu es l'Église sur ton lieu de travail maintenant. Et tu sers l'Éternel dans ton lieu de travail, tu sers l'Éternel dans ta famille, tu sers le travail, tu sers l'Éternel quand tu fais tes courses au supermarché, tu sers l'Éternel partout où tu transportes l'Église, et tu es l'Église. Tu es son corps en mouvement. Vous voyez, c'est qu'on n'a rien compris, dire « je servirai l'Éternel à la retraite ». Ben oui, à la retraite, tu meurs. Non, je veux dire, bon, une fois ça va, mais quand j'ai vu ça plusieurs fois, j'ai dit « oh, vous savez, quand vous êtes jeune, vous regardez aussi les vieux ». C'est ce que je disais à Andrew, c'est moi qui suis vieux maintenant, je fais très attention à ce que je sème autour de moi et surtout parmi les jeunes. Quelle est la semence que je mets au niveau des jeunes? Moi, je veux qu'un jeune, quand il me voit, il ait envie de suivre Jésus. Parce que moi, j'ai rencontré des vieux qui m'ont tellement donné envie de suivre Jésus. Des serviteurs de Dieu qui est beaucoup plus âgé que moi. Oh! Et transmettez le cœur de Christ. Là, vous avez envie de suivre Christ. Vous n'êtes plus dans la théorie simplement littéraire de la Bible. Vous êtes dans le vécu de la parole, à travers des êtres qui vous ressemblent, qui sont comme vous, sauf qu'ils sont à un autre niveau que vous. Mais c'est ça que je veux, moi. Je veux aimer Jésus comme ça. Je veux que ma vie transparaisse de lui. Alors, le Seigneur va nous renverser dans nos valeurs, parce que tout le monde veut bien vivre, mais ne veut pas mourir. Tout le monde veut bien recevoir, mais ne veut pas donner. Tout le monde veut bien être élevé, mais ne veut pas être abaissé. Et tout le monde veut bien être libre, mais ne veut pas être esclave. Alors je comprends qu'il y a des chrétiens qui n'y arrivent jamais. Ça se comprend. Alors, ce qui est important, c'est que je vais terminer mon message en vous laissant sept caractéristiques bibliques de la bouche même du Seigneur, avec une huitième caractéristique qui est la conséquence et les fruits. Première caractéristique que nous voyons dans Matthieu 16, 24, c'est le renoncement à soi-même. Si quelqu'un ne veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Le péché, c'est quoi le péché? Quand on renonce au péché. Mais c'est quoi le péché? C'est de faire notre volonté. Tout simplement. Quand tu fais simplement, ah ben moi je ne veux pas être contrarié. Je veux personne qui me contrarie. Je suis désolé. Moi, depuis que je connais Dieu, depuis 52 ans, s'il y a une personne qui m'a contrarié le plus, c'est lui. Il m'a contrarié dans ma chair. Mais je suis heureux qu'il m'ait contrarié. Parce que ma chair m'emmenait dans la détresse. Ma chair m'emmenait en enfer. Combien je le bénis de ce que Dieu m'a contrarié. Aujourd'hui, une petite contrariété, on devient bipolaire. On est bipolaire maintenant. C'est à la mode, ça. Tout le monde est bipolaire. Hein, parce qu'on a deux comportements. Je ne veux pas. Mais il faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens dans cette église, mais tu viens pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu es dans l'église? Quelle est la raison pourquoi tu crois? Hein? Est-ce que si c'est vraiment Jésus, dans ce cas-là, la question, est-ce que j'ai renoncé à ma vie? Plus je renonce à ma vie, plus je renonce à mes problèmes. Parce que ce qui m'a produit des problèmes dans ma vie, c'est bien ma façon de vivre. C'est moi qui suis le producteur de mes problèmes. Non? En lâchant certaines choses, vous lâchez aussi beaucoup de problèmes. Ça, je vous le garantis. Deuxième chose, Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Quand vous commencez à regarder à Christ, surtout ne regardez pas en arrière. Moi, il n'y a pas photo. Moi, ma vie, elle a basculé quand j'avais 19 ans. Elle a vraiment basculé. Et jamais j'ai regretté, en fin de compte, ma vie passée. Jamais. Jamais j'ai regretté ma vie passée. C'est une honte. J'ai blasphémé. Des pensées tellement négatives sur Dieu. Quelle honte. Quand j'y pense, je suis étonné de la grandeur du pardon de Dieu. Est-ce que tu veux regarder en arrière pour faire comme le peuple d'Israël? Ah, en Égypte, on avait des concombres. Mais on avait des concombres, on avait ça. Mais ils oubliaient, ils étaient dans l'esclavage. Est-ce qu'on oublie qu'en arrière, c'était l'esclavage? Si tu veux retourner à l'esclavage, ben retourne. Et je savais qu'il y a des Égyptiens qui ont même suivi le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont vu que Dieu était avec Israël. C'est bien, c'est quand les païens veulent venir à l'église, parce que dire, ah, je reconnais que Dieu est avec vous. Mais pour que Dieu soit avec nous, il faut que aussi les gens le voient dans votre façon de vivre, dans votre comportement. Moi, Andrew, ça fait 2 mois qu'il est à Ifto. Partout où je peux l'emmener, je veux qu'il me voie vivre. Je veux qu'il me voie vivre. Je ne veux pas qu'il me voie simplement derrière une estrade. Je veux qu'il me voie dans mon quotidien. Et j'espère que je suis un exemple. J'espère. Avec tous mes défauts, j'espère que je suis quand même un exemple. Et nous devons être des références pour les autres. Mais tu ne pourras jamais être une référence si tu regardes dans le rétro. Si tu conduis ta voiture en regardant dans le rétro, je peux te dire, tu ne vas pas aller loin. Il faut regarder devant. Troisième, c'est soumettre sa vie au Seigneur et à sa parole. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hein? Et Jean 14, 20, 23. Si nous aimons le Seigneur, nous garderons sa parole. Aimer Jésus, c'est se soumettre à sa parole, c'est de serrer sa parole sur son cœur, c'est de revoir comment je crois sa parole. Est-ce que sa parole, elle a une autorité sur mon système même de pensée? C'est la vraie repentance, la métamorphose. Est-ce que j'ai changé ma façon de penser? 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit que si je rends mes pensées captives, j'ai à collaborer avec lui. Dieu ne va pas le faire à ma place. Dieu ne fera jamais à ma place ce qu'il me demande de faire. Et tu pourras toujours demander à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. Il ne le fera jamais. Parce que nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes des êtres créés à son image avec le libre choix. Ce qui fait de nous des hommes responsables. Nous sommes responsables de ce que nous pensons et forcément responsables des conséquences de ce que nous pensons. Comprenez ? Sinon, c'est Dieu qui est responsable. « Ah ben, c'est de ta faute, Seigneur. Hein, t'as pas fait. » Mais non, c'est pas de la faute de Dieu. Quand Dieu nous demande de rendre nos pensées captives à l'esclavage de Christ, à la pensée de Christ, c'est ça qui renverse les forteresses de raisonnement dont nous avons tous. Nous avons tous des forteresses de raisonnement. La semaine dernière, j'ai prêché dans mon église. C'est la semaine prochaine, sur la semaine dernière, ou l'autre, je ne sais plus. J'ai prêché dans mon église sur comment le diable nous a, sur, quand on essaye de construire nos propres sécurités. Ça paraît légitime de se construire des sécurités. Ça paraît légitime. Mais on ne se rend même pas compte qu'on est dans le péché. Qu'on manque complètement la cible, puisque c'est Dieu ma sécurité. Et j'ai besoin d'apprendre à trouver ma sécurité en lui. Sinon, tout ce que tu peux construire, c'est un péché. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est simple. Et c'est subtil, parce que ça part sur de bons sentiments, sur des choses légitimes. Mais comment voulez-vous, si je n'accepte pas de me laisser métamorphoser par la pensée de Christ, ben, je vais continuer à faire les mêmes choses. Hein, dans la vraie repentance, ce n'est pas simplement des larmes devant un problème que tu as eu. Non, c'est dire, ah, si j'en suis arrivé là, c'est que j'ai quelque chose dans mon système de pensée qui m'a amené là. Et je vais retourner dans ma façon de penser, ma façon de voir, mes règles de valeur. Je vais voir, hein, ah ben non, ça c'est sûr que c'est à l'inverse de toi. C'est normal que je suis dans le problème. Donc ça, je n'en veux plus dans la vie. C'est l'enseignement pratique. Mais c'est que comme ça qu'on devient disciple. En réinstallant la parole et la pensée de Dieu, en étant sérieux avec les Écritures. Moi, je suis scandalisé que les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Nous, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps ? Et tu as le temps d'écouter des feuilletons à la télévision ? Faut arrêter. Tu as le temps de regarder les informations, tu as le temps de passer du temps à des tas d'autres choses. Et quand il s'agit de la parole, tu n'as jamais le temps. Comment veux-tu te construire dans la pensée du disciple si tu ne prends pas note de ce qu'il dit ? Je vous dis ce qu'il dit. Quatrième chose, mettre Jésus à la première place. Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus, on lui doit toute la priorité. Pourquoi ? C'est pas qu'il veut que je puisse haïr mes parents ou haïr mes enfants, c'est pas ça. Mais je veux dire, le terme, il a été utilisé pour nous faire voir, en fin de compte, il y a une telle différence, une façon d'aimer de l'homme et aussi la façon d'aimer de Dieu. Comment veux-tu que j'apprenne à aimer, par exemple, ma femme ? Si je reste, en fin de compte, dans un amour purement romantique, un humain comme monsieur tout le monde. Et dès qu'il y a une petite contrariété, « Oh, mon mari, ceci, oh, ma femme, cela. » Comment veux-tu que j'apprenne à discerner quand le Seigneur nous donne une mission ? Nous, les hommes, c'est d'aimer nos femmes. C'est notre mission. Comme je disais avec un frère, Dieu nous a donné une mission. Les hommes ne se marient pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureux. Hein, Cédric ? Non, tu ne te maries pas pour être heureux. Tu te maries pour aimer ta femme. Et quand la femme, elle est aimée, elle se soumet. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle est sous la mission de son mari. Hello ? Peut-être qu'on en reparlera à ton mariage de tout ça. Hein, la femme, elle est sous la mission de son mari qui a pour mission d'aimer sa femme. Voyez, on approche les textes autrement. Hein. C'est important. Mais ça, c'est notre responsabilité. Oh, je pourrais tellement dire là-dessus, mais... Hein ? Non, ce sont des sujets tellement importants. Vous savez, moi, ce qui m'a fait grandir, c'est mes difficultés avec mon épouse. Ça m'a fait grandir. Hein. Et en fin de compte, j'ai fait attention à mes réactions. Et j'ai essayé d'étudier mes réactions par rapport à la parole. Même quand j'avais raison, le Seigneur ne me disait pas que j'avais raison. Même quand j'avais raison, dans ma logique, dans ma compréhension, dans mon intelligence, dans mon rationalisme, j'avais raison, absolument. Mais le Seigneur n'a rien à faire que tu aies raison. Le Seigneur, il veut aussi que tu accomplisses ta mission, comme lui, il l'accomplit par rapport à l'Église. Il libère une générosité dans le pardon, dans la patience. Et ça nous fait tellement grandir. Ce qui est important, c'est toujours nos réactions. Nous sommes responsables de nos réactions. On n'est pas responsable des dysfonctionnements des autres. Mais je suis responsable toujours de ma réaction. Donc c'est pour ça, il est important que dans la pensée, c'est que Jésus soit à la première place par sa parole. Et si il est à la première place, c'est forcé, ça change mes choix, ça change mes réactions, ça change mes ambitions, ça change mes directions de vie, ça change ma gouvernance de vie. Et c'est là que la vie du disciple, elle grandit petit à petit. Il faut qu'il croisse. Et quand le Seigneur croit, moi, c'est moi qui diminue. Souvent on dit, Seigneur, nous on veut diminuer comme ça. Et il faut que le Seigneur y prenne la place. C'est le principe des vases communicants. Plus le Seigneur va prendre la place, moins ta chair va prendre de la place. Et ça s'appelle la mort. Quand je renonce. Cinquièmement, nous devons décider de porter notre croix. Hein, Luc 14, 27, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est un choix volontaire. Souvent, on dit, moi j'ai une croix autour de mon cou. Bon, c'est bien que tu veux avoir une croix à ton cou. Elle n'est pas trop lourde. Peut-être porter celle-là. Hein? Mais bon, c'est un bon sujet pour aborder. Ah, vous avez une croix. On peut évangéliser là. Vous voyez, mais porter sa croix, regardez le choix que le Seigneur a dû faire. Tu ne pourras jamais porter ta croix si tu ne vas pas à Gethsémané d'abord. Tu ne pourras jamais accepter de mourir à certaines choses importantes. Tu n'auras jamais la force pour vaincre certaines addictions. Combien d'hommes aujourd'hui sont addicts à la pornographie ou à toutes sortes de choses ? Ou d'autres sont addicts à l'argent, addicts à l'orgueil, addicts à toutes sortes de choses. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais tu ne pourras jamais mettre ça à la croix sans passer du temps sur le message de la victoire, sur ta volonté insoumise. Mais c'est plus tu vas être rempli de celui qui est par nature le vainqueur, plus tu vas être rempli de lui, plus lui te rend vainqueur. Que tu sois pécheur, que tu aies honte de ton péché, Dieu le sait. N'aie pas peur de t'approcher de lui. N'aie pas peur, même si tu es dans le péché le pire. N'aie pas peur de venir à Jésus. Il est venu exprès pour t'en sortir. Il est venu exprès pour t'en sortir. N'aie pas peur. N'essaie pas de te cacher quelque part parce que tu vas grandir dans d'autres addictions. Viens à lui. Viens à lui. Apprends à penser comme lui. Il te donne la victoire par son sang. Regarde, il a vaincu tout ça pour toi. Sa victoire, c'est la tienne. Sa pureté, c'est la tienne. Tu ne peux pas te créer pur. Tu ne peux pas, toi, te recréer pur. Ça, c'est de la religiosité. Et on voit que la religion a amené que de la mort, que de la détresse, qu'une fausse image de Dieu dans ce monde. Mais des vrais attouchements de Dieu, intimité de Dieu. Waouh ! Tiens, il s'est passé quelque chose. Il est transformé. Oui, j'ai rencontré celui qui est vivant. J'ai rencontré celui qui m'a purifié. J'ai rencontré celui qui m'a donné la force. J'ai rencontré celui... Mais c'est une vraie rencontre. Mais tu ne peux pas devenir un disciple et déposer les choses à la croix comme ça. Parce que si tu repars avec ta façon de penser Et c'est ce qui se passe souvent quand les gens, dans les réunions de prière, ils viennent, ils sont sincères, ils sont honnêtes, ils sont touchés par les émotions, ils déposent leur fardeau, leur péché, et ils retombent. C'est arrivé à personne, ça, non? Non, je pense qu'on est de, hein, on est de la même patte. Hein. On est tous dans la même barque, d'accord? C'est arrivé à tout le monde. Et il faut le dire, faut pas avoir peur de le dire. Dire mais ça veut dire qu'il y a un problème à régler, là. Si ça ne marche pas comme ça, comment ça peut marcher autrement? En prenant sa parole, en changeant ta façon de penser, en mettant Jésus à la première place, en commençant à croire les messages de l'autorité du sang sur ta vie, en commençant à voir autrement hein, l'identité de Christ en toi, en voyant aussi l'ampleur de son amour, combien l'amour nous comble. On est attiré par des cordages d'amour. Dieu ne veut pas que le pécheur périsse, mais il veut le relever, il veut le rétablir. C'est bien ça la bonne nouvelle. Comprenez? Ne faisons pas de l'évangile de une religion hein, du dimanche matin. C'est un combat de tous les jours, un combat qui est déjà gagné par lui. Sixièmement, c'est renoncer à tout ce que nous possédons. Luc 14, 33, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Ce qui nous plombe dans la vie, c'est que nous sommes les propriétaires. Je suis propriétaire de tout. Je suis propriétaire de ma maison, propriétaire de ceci, même propriétaire de ma vie. Mais quelle illusion que je me fais. Nous sommes propriétaires de rien. J'ai rencontré plusieurs fois, quand j'étais jeune, le pasteur Richard Van Brandt. Il faisait des conférences à la Mutualité à Paris. Et un jour, dans une conférence, il dit « Le pain qui est dans la cuisine ne m'appartient pas. » Ça m'a semblé... Moi, j'étais tout jeune. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Pourtant, le pain, c'est bien lui qui l'a acheté. Il l'a acheté avec son salaire. Et c'est pas le pain du voisin, c'est bien lui. Vous savez, quand vous êtes jeune, prenez tout au premier degré, comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais c'est important, ce qu'il dit. C'est-à-dire, même quelque chose aussi légitime que ça, il a conscience que même le pain appartient à Dieu. Qui a donné déjà la semence pour avoir du blé? Qui a donné l'intelligence pour qu'avec la semence, on peut faire de la farine et après, on peut faire des boulangers? Qui m'a donné la santé pour travailler pour un salaire? Qui? Si ce n'est lui. C'est ça, de développer de la reconnaissance. On sait que rien ne nous appartient. Et vous savez, c'est très, très important, cette notion de propriété. Un propriétaire, il ne rend de compte à personne. Je suis propriétaire. Oui, mais quand tu es locataire, quand tu es gérant, tu as des comptes à rendre au propriétaire. Si Dieu est vraiment propriétaire, un jour, on aura des comptes à lui rendre. Et là, ça change la donne. Et c'est là qu'on grandit dans la crainte de l'Éternel. Je vais grandir dans la crainte de l'Éternel. Parce que j'ai des comptes à lui rendre. Il m'a donné la vie. Il m'a créé, il m'a voulu, il m'a désiré. Pour une destinée bénie, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ces quelques années que Dieu me donne sur la terre? J'en fais quoi? Je me sers moi-même? Mes intérêts? Moi, ma petite famille, et après on verra bien pour les autres? Ah, là tu risques d'avoir des problèmes. Le Seigneur est à la première place. Et je ne possède rien, même pas ma respiration, comme je disais tout à l'heure. Septième aussi point, le disciple vit dans la joie de son maître. Je vous ai parlé dans Jean 15, 11. Ainsi, afin que votre joie soit en vous, que votre joie soit parfaite ou complète. Et on sait que la force de la joie, hein, dans la joie, il y a la force de l'Éternel. La joie est une force pour vaincre les difficultés, pour vaincre les frayeurs, pour aplanir les montagnes. Quelle force qu'il y a dans la joie. Et je suis dans la joie parce que je sais qui je sers. Je sais qui est mon sauveur. Hein, il est aussi mon Seigneur. Il est mon maître. Il est mon pédagogue. Il est mon père. Il est celui qui sait me consoler. Il est celui qui sait me corriger. Il est celui qui sait me conduire. Moi, l'année dernière, quand à l'église, ils m'ont fêté mes 70 ans, ils m'ont fait une méga fête. D'ailleurs, j'étais au courant de rien, c'était une surprise. Mais ça a été très thérapeutique. Vous savez, les pasteurs, on reçoit quand même pas mal de coups. Hein. T'as remarqué, hein? Voilà. suivez mon regard, voilà. On reçoit quand même pas mal de coups, hein. Bienvenue. Bienvenue dans le ministère, Andrew. Hein, mais on ne se rend pas compte des fois les douleurs cachées, quoi. Et ils m'ont fait un récapitulatif de ma vie. Ils ont été chercher des témoignages en Amérique, en Israël, en Afrique, en Belgique, partout, des témoignages, tout ça en vie. Mais je dis, ça a été ma vie, ça. Tous ces gens-là, ils ont été bénis avec un gars comme moi. Vous êtes brisé dans l'amour. Vous comprenez ça? Et c'est tellement thérapeutique que Dieu fait une œuvre parfaite avec des gens tellement imparfaits. Ne vous arrêtez pas parce que vous êtes imparfaits. Avancez dans la perfection. On ne mange pas un éléphant en une seule fois, mes bien-aimés. Mais on est capable de le manger un morceau par un morceau. Ou tu ne pourras jamais régler tous tes problèmes en une seule fois. Mais aborde un problème après l'autre. Avec la croix, avec la pensée de Dieu. Commence ça. Tu vas voir combien ta joie va grandir. Quand tu vas être victorieux là, tu vas avoir des racines pour être victorieux là. Et tu auras encore plus de racines pour être victorieux là. Et au bout d'un moment, l'éléphant est mangé. Et ta joie sera parfaite. Et je terminerai dans les conséquences, dans un discipola comme ça, dans ce que le Seigneur, la route qu'il a tracée là. Les conséquences, c'est que le disciple, il porte du fruit à la gloire du Seigneur. Ouais, on porte du fruit. On est même étonné. On est des spectateurs. C'est lui le maître. C'est lui qui réussit. C'est lui qui nous fait rentrer dans sa réussite. Ce n'est pas notre réussite. C'est sa réussite dans notre vie. C'est complètement différent. Et on ne tire jamais aucune gloire. Moi, j'avais un vieux père spirituel qui avait 84 ans, qui était un ancien de la guerre de Verdun, en 1918, il m'a dit quelque chose qu'il a planté dans mon cœur. Il me dit, Gilles, tu ne voleras jamais une miette, pas grand-chose, une miette, de la gloire de Dieu. Waouh ! Ça m'a toujours aidé. Ça m'a plombé, ça. J'ai dit, oh là ! Et croyez-moi, quand des fois, vous savez, ah, j'ai bien prié, j'ai bien fait ceci, ah, j'ai bien... Attends, doucement, mon petit gars. Doucement. Là, tu es en train de prendre peut-être même plus qu'une miette. Ça nous garde dans l'humilité, mes bien-aimés. Ça nous garde vraiment dans la crainte de l'Éternel. Dieu a besoin de relever un peuple dans cette mentalité du disciple-là. Tu n'es pas à l'église pour avoir une carte d'église. Tu n'es pas à l'église simplement pour te faire du bien. Tu es à l'église pour être un soldat de Jésus-Christ. Tu es à l'église pour manifester le cœur de Christ. Tu es à l'église pour manifester la volonté du Père dans ta vie, partout où tu vas. Et ensemble, vous apprenez à vous pardonner mutuellement, à vous aimer sans condition, à vous pardonner sans condition, à libérer le cœur de Dieu entre vous pour que ensuite vous ayez de la force pour aller vers ceux qui n'ont personne. Que le monde puisse reconnaître que Jésus est ressuscité à travers les disciples qui s'aiment. Amen. Que le Seigneur vous aide. Père éternel, j'ai libéré ta parole avec tout mon cœur. Je sais que tu as parlé aux uns et aux autres. Je ne vais pas faire d'appel spécifique, mais je vous laisse simplement avec votre conscience devant Dieu. Je ne veux pas jouer sur les émotions en quoi que ce soit. Mais je vous demanderai de faire comme Marie le faisait, la mère de Jésus. Elle repassait dans son cœur les paroles du Seigneur. Ayez du temps à part. Que tout ce qui vous a percuté, touché, notez-le et allez dans un endroit calme. Sachez qu'il est là. Parlez-lui. Livrez vos cœurs complètement. Si vous avez besoin de vous repentir, repentez-vous. Et recevez sa grâce. Recevez son amour. Recevez sa joie. Et devenez ses disciples où il peut grandir chaque jour. Marchez de progrès en progrès, de victoire en victoire. Sachant qu'il est tout ce dont vous avez besoin dans cette marche de discipulat. Soyez bénis. Amen. Merci pour la patience que vous avez eue pour m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse pleinement.